France Culture, les films qui ont changé le monde. Olivia Gesbert.
Bonjour à tous. Je crois qu'il existe peu de cinéastes qu'on aurait envie d'honorer pour et à travers chacun de ses films. Le pape des studios Ghibli est de ceux-là. Maître incontesté de l'animation japonaise, seul capable de concurrencer dans les esprits et au box-office Disney, l'américain, influencé par le français Paul Grimaud, Hayao Miyazaki a inventé un monde fantastique et fantaisiste, peuplé de créatures imaginaires et de héros fascinants, de la petite fille loup au cochon aviateur Porco Rosso, Kiki la petite sorcière, mon voisin Totoro, l'adorable Ponyo, la sauvage princesse Mononoke ou encore Chihiro. Depuis quelques années, chacun de ces films est annoncé comme le dernier, un nouveau et pourtant attendu cet été 2023 au Japon, adapté d'un livre de 1937 par Genzaburo Yoshino. Voilà pourquoi, en choisissant de revenir aux sources du 7e art pour cette collection de 10 films qui ont changé le monde, nous avons choisi de revenir aujourd'hui sur ce film événement qu'est Le Voyage de Chihiro, film d'animation japonais sorti en 2001 qui multiplie les niveaux de lecture et les références. Le deuxième plus grand succès de l'histoire du cinéma japonais, 23 millions de spectateurs là-bas, un succès mondial et une reconnaissance critique dont l'Oscar du meilleur film d'animation et l'Ours d'or du meilleur film. Pourquoi ce film a-t-il changé et l'histoire du cinéma? Comment a-t-il modifié nos regards sur l'enfance, sur nos sociétés de consommation et de la satisfaction immédiate? Comment a-t-il ouvert nos imaginaires? On est ensemble à partir de maintenant pour une heure de discussion.
Au fond de moi, je suis négatif. Et sans espoir. J'ai beaucoup de désespoir et de pessimisme. Mais je ne crois pas qu'il faille l'exprimer dans mes films qui seront vus par des enfants. Je suis plus intéressé par ce qui me pousse à faire un film joyeux ou par ce qui me rend heureux.
今までと今までこうだったから、あるいはこうだから、こういう悪役が出てきてこれやっつければいいんだとかっていうふうに簡単に作ってはいけないっていうふうに思っています。
Note de la bande originale du Voyage de Chihiro signée Joe Hisashi. Miyazaki vient nous donner la clé d'entrée dans ses films. Rendre heureux, se rendre heureux, nous disait-il en introduction. Pourtant, les premières images du film, Le Voyage de Chihiro, dont nous vous parlons aujourd'hui, évoquent plutôt la nostalgie à travers le regard un peu éteint ou perdu dans le vague, dans le vide de la jeune héroïne de 10 ans, qu'est Chihiro à l'arrière de la voiture parentale. Chihiro, un voyage initiatique vers le bonheur, on en parle aujourd'hui avec nos invités. Xavier Kawatopor, historien et spécialiste du cinéma d'animation, cofondateur de la revue du film d'animation Bling Blank. Bonjour à vous, Xavier Kawatopor.
Bonjour.
Bonjour à vos côtés. Un cinéaste, Michael Dudoc de Vite, réalisateur de La Tortue Rouge, qui a été une des premières coproductions étrangères du studio Ghibli. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour, merci à vous d'être avec nous. Et Esne O'Neill, maîtresse de conférences en cinéma à Paris 13, autrice du Voyage de Chihiro, paru chez Vendémiaire. Bonjour,
Esne. Bonjour.
Bonjour. Le Voyage de Chihiro, si on commence toujours par le commencement, par le début, c'est-à-dire par le titre. De quoi ce titre est-il annonciateur, Michael Dudoc de Vite?
Tiens, j'ai jamais pensé au titre. Elle fait un voyage, elle fait une transformation énorme à travers l'histoire. Pour moi, ça marche très bien quand leurs films ont le nom d'une personne déjà dans le titre. Ça rend le film tout de suite beaucoup plus intime, plus direct.
Vous, votre film donne le nom d'une tortue, qui est réellement l'héroïne en fait de ce
Madame
film.
Madame Tortue. Ah.
Oui. Avec la rencontre qu'elle va faire, cette tortue, véritable traversée du miroir, hein, où le cinéaste japonais nous fait passer dans un monde parallèle. Il est là le voyage, hein, Xavier Kawatopor.
Oui, et il faudrait peut-être se référer au titre japonais qui en fait comporte les deux noms de l'héroïne, c'est-à-dire son nom d'état civil qui est Sen, et la transformation d'une certaine manière de Sen jusqu'à Chihiro, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un voyage initiatique qui passe par un changement de nom du personnage.
Donc un changement d'identité.
Donc un changement d'identité.
Donc absolument. Un changement de personnalité peut-être aussi.
Absolument.
Oui, et de perception. On retrouve tout ça dans cette idée du voyage, dans ce déplacement. C'est intéressant, Esne O'Neill, on commence le voyage avec Chihiro et ses parents en voiture. C'est une scène prélude réellement au film, on y entre tout de suite avec un extrait.
Chihiro ? Chihiro ? On est presque arrivé.
On voit bien qu'on n'est plus en ville. Le magasin le plus proche est à des kilomètres.
On sera très bien ici, tu verras. Regarde, voilà l'école primaire. Tu ne veux pas voir ta nouvelle école, Chihiro ?
Regarde comme elle est jolie et moderne.
J'aimais mieux celle d'avant.
Quoi ? Est-ce que je me suis trompé ? Je n'y comprends rien.
C'est sûrement là-bas, regarde.
Hein ?
C'est cette maison bleue, là, tout au bout ?
Hé, hey, mais ce chemin de terre y conduit peut-être.
Attention, tu sais que c'est toujours comme ça que tu te perds.
Allons voir un peu plus loin.
Ah, t'as vu toutes ces petites maisons ?
Oui, ce sont les temples où vivent les esprits. Je crois que tu ferais mieux de t'asseoir.
Il faut que je dise que les extraits seront en version française et qu'on entend ici la voix pour Chihiro de Florine Orphelin. Les premières images du film annoncent un déplacement, celui d'un simple déménagement de cette famille dans une petite maison cossue de la banlieue japonaise, jusqu'à ce que le père se trompe de chemin. Un arbre, un portail en bois, des petits sanctuaires, où est-ce qu'on est à ce moment-là ?
Alors, la musique de Joe Hisashi le rend très bien, ce trajet chaotique dans un monde absolument inconnu, même des parents. Et je trouve très intéressant que Miyazaki a pris soin de nous indiquer que Chihiro, qui est une jeune japonaise de 10 ans, ne reconnaît même pas ce sanctuaire qui est quelque chose d'assez ordinaire. Et le film, en fait, a bouleversé aussi les Japonais parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne connaissaient pas leur propre culture. C'est pour ça que Miyazaki était un animateur paradoxal. Il veut montrer le Japon aux Japonais d'aujourd'hui, mais il leur montre leur passé, leurs traditions, leurs valeurs, aussi dans le contexte d'un changement du monde actuel.
Et tous ces films rappellent cet attachement à la culture, aux traditions japonaises. C'est peut-être pour ça d'ailleurs l'une des forces de Hayao Miyazaki, on y reviendra, c'est qu'il fait ce voyage-retour pour mieux aider les spectateurs à se projeter dans l'avenir. C'est important de savoir d'où l'on vient, de toute façon. Je voudrais qu'on commence quand même, avant de trop analyser le film, par quelques ingrédients de base, peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce film. Et à commencer aussi par votre ressenti. La première fois, tous les trois, que vous voyez le voyage de Chihiro, c'était il y a 20 ans peut-être, à sa sortie, ou un peu plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Vous ressortez de cette salle de cinéma ? Dans quel état, Xavier Kawatopor ?
Alors moi, j'ai eu la chance de le voir quelques mois avant sa sortie, puisque nous avions organisé donc en décembre 2001, au Forum des Images, la première internationale du voyage de Chihiro, en présence de Miyazaki, dans le cadre d'un festival que nous avions organisé qui s'appelait Nouvelles Images du Japon. Et pour moi, c'est un souvenir complètement extraordinaire parce que d'abord, il y a eu, devant le Forum des Images, plusieurs jours de queue. énorme de toute une génération de jeunes cinéphiles qui venaient voir le dernier Miyazaki en présence de Miyazaki et qui se relayaient la nuit et le jour pour faire la queue et pour avoir leur ticket. Je pourrais parler très longtemps de cette première. Moi, je n'avais pas du tout vu le film avant et je n'ai pas vu le film pendant la projection puisque j'étais avec lui au restaurant. Et lorsqu'on est rentré, c'était extraordinaire de voir... Donc moi, j'ai vu le film à travers, finalement, le regard des spectateurs qui avaient vu le film. Et ces regards complètement fascinés, subjugués. Et ce qui était très drôle et très, très savoureux, c'est qu'il y avait au premier rang un jeune homme qui avait passé la nuit à faire la queue et qui, du coup, au moment où Miyazaki arrive sur scène, dormait. Voilà. Et je garderai toujours ce souvenir complètement extraordinaire qui était que pour lui, c'était vraiment important d'être là. Et je crois que son rêve a été un des rêves les plus extraordinaires. Donc oui. Après, je l'ai revu.
Voilà, vous l'avez vu, revu et même, à mon avis, revu.
Voilà, je l'ai revu plusieurs fois. Mais effectivement, ce premier souvenir est extrêmement important parce que c'est le souvenir d'un public, d'une génération qui était effectivement dans une fascination totale vis-à-vis de ce grand réalisateur. Et puis après, moi, j'ai eu un regard un petit peu mitigé sur le film, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois fascination pour tout ce qu'il est, et à la fois presque un sentiment de sommet, de somme, de trop-plein, d'une certaine manière. Pour moi, c'est un film qui m'a débordé de tous les côtés.
Et pour vous ?
Je voulais dire que j'étais présente aussi à cette même
projection manifestation
avec la même présence du même metteur en scène. Pour moi, il s'agissait d'écrire là-dessus immédiatement. Et c'était évidemment pour moi un très grand privilège. Et j'ai relu ce que j'ai écrit il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, et je ne reconnaissais pas du tout la personne qui a écrit ça, tellement ma réaction était différente. J'ai réagi à cette explosion d'un monde exotique, rempli de personnages ludiques, un peu ironiques, avec la musique, et cette fille qui est contemporaine, qui n'est pas du tout comme Nausicaa, post-apocalyptique, elle est pré-apocalyptique plutôt, ni comme Mononoke, j'étais absolument éblouie. Mais j'ai écrit un article sur la poésie et je l'ai intitulé « Sous le sceau du pot pourri » parce que le pot pourri était un objet qui représentait pour moi, irlandaise, un objet par excellence japonais. Et j'ai gardé ça dans mon livre pour nommer l'île qui n'a pas de nom dans le livre.
Mais ça pourrait être mal interprété, cette idée du pot pourri en France. Mais là, vous l'expliquez très bien. Et on comprend, il faut expliquer que par rapport à Nausicaa, par rapport à Princesse Mononoke, c'est vrai que l'héroïne de ce film-là est une petite fille, une pré-ado ordinaire, inspirée par la fille de son producteur. Et il veut s'adresser vraiment à cette jeune fille de 10 ans. Mais vous n'aviez pas 10 ans, vous, de votre côté, Michael Dudok de Vitte. Qu'est-ce que vous avez ressenti?
Bon, justement, moi aussi, ça m'a beaucoup plu d'avoir comme héroïne quelqu'un d'ordinaire. Ça a très bien marché pour moi. Moi, j'ai vu le film à sa projection au Festival de cinéma d'animation à Annecy. J'avais pas tellement d'attentes, sauf que j'ai adoré tous les films précédents de Hayao Miyazaki. Et j'étais émerveillé. Et comme tu disais, Xavier, c'était aussi un peu trop. Il y avait trop de choses à voir en même temps.
Mais quand on aime autant un réalisateur, quand on le suit d'aussi près, c'est vrai qu'on peut être quand même dérouté par ce voyage du Chihiro qui ne reprend pas tous les codes des précédents. On va voir comment on réagit les critiques français du Masque et la Plume et on va écouter, mythique émission de France Inter, on va écouter les mots d'Alain Rioux.
C'est un film, curieusement, qui surprend beaucoup et dont la première partie est très manga, justement, pendant assez longtemps, même une fois qu'on est entré dans cet établissement de bain qui est le Palais des Merveilles.
Une pagode terre.
Eh bien, c'est un petit peu... Enfin, c'est assez ordinaire et brusquement, comme la nuit...
Enfin, c'est assez ordinaire, au bout de 5 minutes, ils sont transformés en cochons.
Oui. C'est très ordinaire.
Non, mais tant qu'ils sont transformés en cochons, ça n'est pas extraordinaire. Dans les livres d'enfants, on voit ça très souvent, et brusquement, enfin, ça n'est pas propre à Miyazaki, et brusquement, au cours de la nuit qui porte conseil et qui amène des monstres, brusquement on s'aperçoit qu'on est dans un pandémonium absolu. C'est étourdissant, c'est-à-dire que le refoulé, l'inconscient ont pris le pouvoir, ce sont des choses qui ne s'inventent pas. On est dans Max Ernst, mais vraiment dans Max Ernst, c'est merveilleux. Et en plus, alors ça je ne sais pas si c'est propre au Japon ou aux Indes ou à la nature humaine, ou au talent, au génie de M. Miyazaki, nous sommes habitués en France à avoir, en Occident, à avoir des symboles un petit peu, le grand méchant loup est méchant, le chaperon est gentil, la grand-mère est gentille, etc. Là, c'est totalement mélangé. Et l'être le plus malfaisant, c'est un bébé, qui est d'ailleurs formé de trois têtes, un bébé gigantesque, c'est terrifiant, trois têtes qui se rassemblent, et l'être le plus gentil, le plus adorable, est un dragon avec une tête de loup qui hurle et dont on a l'impression qu'on va nous mordre, et c'est le bon, c'est-à-dire qu'on est bouleversé dans toutes ses croyances, ses connaissances, ses formes.
Ben c'est un peu comme les critiques, on croit qu'ils sont méchants, et en fait, ils ont des cœurs de porcelaine.
De porcelaine, en deux mots. Voilà, un peu dérouté nos critiques d'avoir à étudier, analyser, parler d'un film d'animation. On est en 2002 à ce moment-là, au moment de la sortie du film en France. Ils y voient plutôt du Max Ernst que du Lewis Carroll, en tout cas, dans ce film. Hein.
Oui, et vous avez raison de citer Lewis Carroll, parce que pour moi, effectivement, Chihiro n'est pas un conte. Et ce que dit Alain Rioux est intéressant, mais il se réfère à l'univers du conte, et il parle aussi d'inconscient. Et je pense que lorsqu'il est sur cette dimension de l'inconscient, il est plus juste, parce qu'effectivement, la porte, pour moi, du voyage de Chihiro, c'est Lewis Carroll, c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est donc un rêve. Effectivement, dans lequel, effectivement, les règles du conte, le prêt à penser du conte, où on dit, où on assigne aux enfants comment il faut agir, comment, quelles sont les représentations qu'il faut avoir, où se situe le danger, eh ben, n'existent pas, sont complètement bouleversés. Donc, effectivement, la référence est beaucoup plus celle de Lewis Carroll, bien évidemment. Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est effectivement le terme de manga, qui montre bien, effectivement, la difficulté que l'on a à se saisir d'un domaine qu'on ne connaît pas à ce moment-là. Donc, on parle de bande dessinée. Évidemment, ça montre toute l'absence de culture, finalement, à la fois de l'animation et de l'animation japonaise qui existe en 2002, à ce moment-là.
Et il faut le dire, justement, c'est l'importance de ce film dont on est en train d'interroger et la création et la réception. C'est que Hayao Miyazaki, avec tous ses films, et on peut citer aussi Isao Takahata, son complice des studios Ghibli, va quand même réellement révolutionner le cinéma d'animation et lui donner... peut-être pas ses lettres de noblesse, mais en tout cas ses caractères adultes. Le faire passer peut-être à un autre statut hein, qu'il était jusque-là.
Oui, alors c'est une vaste question. Effectivement, Takahata et Miyazaki, il faut les prendre dans cet ordre-là, parce que Takahata a joué le rôle de grand frère de Miyazaki, de professeur.
Le réalisateur notamment du Tombeau des Lucioles.
Tout à fait. Effectivement, reprennent en fait le flambeau d'une certaine manière de Paul Grimaud, qui déjà introduit le cinéma d'animation et le dessin animé du côté à la fois de la poésie, mais du réalisme, puisque c'est le réalisme poétique. Et pour moi, effectivement, Takahata et Miyazaki, la révolution qu'ils opèrent, c'est dans ce sens-là. C'est dans le sens de faire entrer le dessin animé dans un propos sur le monde contemporain. C'est un regard sur le monde contemporain qu'ils nous proposent à travers le dessin animé. Ce n'est pas une fuite du réel, mais plutôt une façon d'investir un regard sur le réel. Même si ce regard est de l'ordre du merveilleux, même si c'est un regard émerveillé, on parle du réel avec eux. Et donc, je pense que c'est à ce niveau-là que se joue, effectivement, le passage à l'âge adulte du dessin animé avec eux.
Esther O'Neill, d'accord avec
vous? Oui, je voulais dire que ce qui se passe ici au niveau de l'histoire de l'animation, c'est que c'est a coming of age film. Et ça, c'est un genre qui, depuis cette époque-là, a énormément évolué. Hein. Les nouveaux films japonais ne parlent que de ça, le passage vers l'âge adulte. Mais c'est quelque chose qui explique l'attrait qu'a le film pour les adultes et pour les enfants. Parce que ce qui se passe dans le film, c'est que c'est Chihiro s'occupe de ses parents. C'est le renversement dans le contraire. Leur vie dépend d'elle. Et à 10 ans, ça c'est l'âge où l'enfant, normalement, se rend compte de ce que c'est que la mortalité de chacun. Et c'est ce qui attend Chihiro, non seulement les bonnes manières et comment il faut faire, etc., mais que la vie est très précieuse, que la vie est éphémère, dans cette merveilleuse scène où, le soir, quand elle a connu pour la première fois Haku, elle se voit en train de disparaître. Une transparence du corps jusqu'à ce que Haku lui donne à manger. Ça, c'est Alice aussi, hein, qui dit à un moment dans le roman, est-ce que je vais finir par disparaître complètement? C'est presque une citation de Lewis Carroll, oui. Mais justement, l'idée de Miyazaki, c'est que l'enfant est le père de l'homme. Ça, c'est une chose que je crois qu'il croit profondément. Hein.
Alors, ce passage à l'âge adulte, hein, ce devenir adulte, qui est le propos même du film, ce récit initiatique, ce récit d'apprentissage, comme on l'évoquait, qui permet aussi au cinéma d'animation, vous êtes d'accord avec ça, de passer lui aussi, probablement à l'âge adulte, dans les pas de Hayao Miyazaki, hein.
Pour moi aussi, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui est beau avec cet aspect de transformation de l'enfant en jeune adulte, presque, le coming of age, c'est que c'est très extrême. Au début, elle est vraiment pas curieuse, elle est irritée, elle est déprimée. Et en l'espace de déjà une demi-heure, elle trouve son autorité, elle trouve son intuition, elle trouve sa place dans la société et les valeurs de la société. Et ça se passe d'une extrême à l'autre très très vite, sans prêcher. C'est entertaining, c'est attirant, c'est joyeux, c'est plein d'imagination, mais on sent pas un doigt qui pointe dans le ciel en disant il faut apprendre de ceci.
C'est justement quelque chose que les autres héroïnes de Miyazaki ont aussi, le sens, une sorte de sens inné du devoir. Et ça, c'est très japonais aussi. Nausicaa est là, de par son papa, etc. C'est dans le film. Et la princesse Mononoke est un personnage presque mythique. Mais la petite bourgeoise qui est Sanjiro, elle l'a aussi. Oui. Et c'est ça, une des raisons pour l'impact que ce film a eu partout dans le monde. Hein. Virginia Elvira là, a été interviewée à Cannes et j'ai été très intéressée par le fait, sa réponse à la question « Quel est le personnage de cinéma à qui vous voulez ressembler le plus, à qui vous vous identifiez ?» Elle a dit « No name » dans « Le voyage de Chihiro ». Mmh. Incroyable. Ah.
C'est Virginie Efira qui a dit ça. Yes. Voilà, la comédienne française, donc à Cannes, qui citait ce personnage du voyage de Chihiro. J'aimerais juste qu'on se dise un mot quand même de la fiche technique. Là encore, avant d'avancer un peu plus, c'est un travail de réalisation et de production d'un an et demi pour Miyazaki et ses équipes. Il sort apparemment complètement lessivé de la réalisation de Princesse Mononoke juste avant. Et il décide d'un projet qui sera un tout petit peu moins chronophage. Et on sait que l'animation est quand même un travail extrêmement minutieux, un travail qui demande et qui prend du temps. Habituellement, tout est fait en interne. Vous m'interrompez si je dis une bêtise tous les deux. Et je crois que ce film-là, Le Voyage de Chihiro, sera un des rares films des studios Ghibli dont une partie de l'animation va être confié à l'extérieur, à des studios, à des animateurs coréens, c'est bien ça ?
Eh bien, disons que il y a eu par le passé, le système de la production japonaise fonctionne sur le système de sous-traitance, mais à l'intérieur du Japon. Voilà. Et effectivement, à ma connaissance, mais je peux dire une bêtise, à ma connaissance, le recours à un studio coréen est assez exceptionnel. Voilà, parce qu'effectivement, il y a un enjeu de création qui a été beaucoup trop fort par rapport aux équipes en place, une animation beaucoup plus chronophage qui est en fait liée à... c'est pas tant la question de la durée du film que la question de son esthétique, c'est-à-dire qu'on passe avec Chihiro dans une forme baroque, pour moi. C'est-à-dire une profusion du trait, une profusion des motifs, une profusion des personnages qui fait qu'effectivement, chaque scène, il y a énormément de personnages, il y a énormément de détails dans les personnages, il y a énormément de traits, et donc cette tendance au baroque, effectivement, nécessite de faire appel à des équipes beaucoup plus importantes que ce qui était prévu au départ. D'ailleurs, Miyazaki va le porter encore un peu plus loin dans le château ambulant, le film d'après, où là, à mon avis, on atteint presque le rococo, d'une certaine manière. Quand on se souvient effectivement des intérieurs du château ambulant, c'est vraiment un détail complètement proliférant. Et puis, il va finalement revenir à une forme d'épure avec Ponyo, où le trait se simplifie, où il revient d'une certaine manière à une esthétique qui est celle de Toro Toro, comme si finalement il y avait dans ce jusqu'au boutisme une forme d'impasse esthétique.
Alors, comment travaille Miyazaki le storyboard plutôt que le scénario? On va écouter les mots du cinéaste japonais en 99 au micro d'Ilan Nguyen.
Voilà ce que je pense. À l'instant, on veut l'exprimer par des mots, toute chose devient suspecte. Ça vous semblera peut-être bizarre, mais dès lors qu'on leur applique un mot, les choses me semblent se transformer instantanément en une boue informe. C'est pourquoi quand je fais un film, je ne le mets pas en mots. Je ne couche pas mes intentions sur le papier au préalable. Plus on observe en détail quelque chose, et moins on a envie d'utiliser le mot censé le décrire. Je pense que les mots sont réducteurs. Ils vous semblent toujours beaux et frais au moment où vous les utilisez, mais en réalité, ils se flétrissent dans l'instant. C'est ce qui fait que les poètes, par exemple, ne cessent de leur donner vie. Et c'est là un travail qui n'est possible que dans la durée, mais impensable dans cette société de l'information et de la consommation, où les mots deviennent eux aussi des produits.
Quel est son rapport aux mots, Esno O'Neill ?
Deux choses. Je crois que le détail des costumes, par exemple, qui ont dû donner un boulot absolument énorme, c'est pas simplement baroque, c'est plutôt une référence au Japon d'autrefois. Je pense aux traditions très élaborées des costumes et tout ça. Il voulait évoquer même l'excès de cela dans les clients des bains de Yubaba, qui sont extraordinairement exotiques, et des capes qui auraient été inspirées par des temples ailleurs au Japon. Je pense que c'est ça. Et je suis absolument d'accord avec le fait que le mot change, enfin la parole annoncée change la donne. L'image en elle-même a beaucoup plus d'impact que le mot prononcé. Et je pense à la tortue rouge en disant cela. Oui, ce qui est dit dans le voyage de Chihiro est peu, mais c'est important.
Et pourtant, les mots ont du pouvoir au Japon, hein, et presque un pouvoir quasi spirituel dans la tradition. On a l'impression, à entendre cet extrait où Miyazaki nous parle, que c'est le mal du siècle, c'est que les mots sont détournés, pervertis, qu'ils perdent leur pouvoir pour devenir des produits, hein, comme il le dit dans cet extrait-là, des slogans publicitaires. Et ça nous ramène à toute son aversion pour la société de consommation, pour cette société de l'immédiateté. Qu'est-ce qu'il lui reproche ?
L'excès, la gloutonnerie, oui. Le trop-plein, l'insatiable. Et là, le voyage de Chihiro remonte aussi. Parce que même si c'est un film qui s'adresse à ce qui devrait être un meilleur monde, ça nous fait penser aussi à la déforestation du Moyen-Âge dans la princesse Mononoke, et qui est due au fait que les gens sont cupides. C'est la voracité qui est à tous les niveaux, là, dans les bains de Yubaba.
C'est la première fois qu'il s'attaque à ce thème aussi directement.
Non, je pense que ce thème... En fait, Miyazaki est un cinéaste engagé depuis le départ. C'est un homme engagé depuis les années 60. Il a été l'un des leaders syndicaux du studio Toei, avec Takahata. Ce sont des gens qui sont sympathisants communistes, donc qui ont une vision très très engagée de la société. Et Miyazaki considère que le dessin animé n'est pas de l'ordre de la distraction, mais de l'ordre de l'engagement vis-à-vis du monde, de l'invitation à s'engager et à agir par rapport à ce monde, et notamment pour préserver la beauté du monde tel qu'il est, de la nature en particulier. Alors, ça serait réducteur, évidemment, de dire que le cinéma de Miyazaki n'est que écologiste, il est bien plus que cela. Mais effectivement, cette attention à la beauté du monde, elle traverse l'ensemble de son œuvre. Alors, l'un des films, qui est d'ailleurs pour moi un miroir du voyage de Chihiro, mais un miroir beaucoup plus solaire, c'est Totoro, autre référence à Lewis Carroll, où effectivement, on a cette invitation à travers le regard émerveillé de l'enfant de regarder la beauté du monde pour la préserver. Donc, ce message-là, il est extrêmement présent, bien sûr.
Il y a aussi ça dans Kiki, la petite sorcière. C'est aussi un récit et un voyage initiatique, et on voit le monde à travers les yeux, et on le voit d'en haut, hein, de la petite sorcière.
Ouais. La différence pour moi sur le voyage de Chihiro, c'est qu'effectivement, le film agit comme une purge, d'une certaine manière. Et pour moi, il y a une scène qui est extrêmement représentative, c'est celle, effectivement, où le démon de la rivière vient se faire laver, et où il où ressort effectivement toute la pollution de la rivière. Et pour moi, cette image-là est aussi l'image de ce film. C'est pour ça que je parle de trop-plein. C'est une façon de purger, d'une certaine manière, à la fois le trop-plein de la société et peut-être à la fois le trop-plein imaginaire de Miyazaki. Mais sur la question de, de l'image et du verbe, moi, il y a quelque chose qui me semble extrêmement important et j'aimerais bien que Michael en parle. C'est la question du storyboard. Miyazaki écrit ses films d'abord par l'image. Je pense que c'est à ça dont il fait référence dans l'extrait. Oui. Et toi, Michael, tu as aussi cette pratique-là.
J'ai cette tendance, je veux dire, ça résonne tout à fait avec moi quand je l'entends parler comme ça, et j'ai pas mal de collègues qui sentent la même chose, je ne veux pas généraliser, mais pas mal, c'est qu'on est des créateurs visuels et les paroles, ça ne marche pas. Souvent, même s'il y a des dialogues très beaux dans Chihiro, etc., on doit d'abord, d'ailleurs, quand quelqu'un me demande c'est sur quoi ton nouveau projet, je dis, je regrette, je ne peux pas en parler, parce que je vois tout de suite que la magie disparaît quand j'en parle. Et Miyazaki est comme ça, et il fait quelque chose qu'aucun réalisateur devrait faire, c'est qu'il travaille encore sur le storyboard quand l'équipe a déjà commencé à animer le film. Pourquoi ? On ne devrait pas faire ça, parce qu'il y a souvent encore des changements énormes dans le storyboard où on élimine le début de l'histoire pour le remplacer par un autre. C'est pas bon pour normalement pour le budget ou pour la solidité de l'histoire.
Ben oui, c'est important.
Mais il a prouvé qu'il peut le faire. Donc le producteur Suzuki travaille comme ça avec lui, sachant que Miyazaki va se débrouiller. Mais il y a sûrement des moments de crise où ils se disent on doit. Je crois avec Chihiro d'ailleurs, ils ont changé l'histoire assez au dernier moment, très très rapidement. Ils ont décidé de Sans Visage, le personnage qui s'appelle Sans Visage, de le mettre en valeur pour aider à créer une continuité dans l'histoire.
Et vous l'avez rencontré ?
Je l'ai rencontré plusieurs fois. Nous n'avons pas travaillé ensemble parce que j'ai travaillé avec Takahata. Il était donc le producteur de La Tortue Rouge et mon inspiration, mon aide créative. Et Miyazaki était occupé avec Le Vent se lève, son film. Et d'ailleurs, Miyazaki est connu d'être très contrôlant. S'il aurait voulu travailler sur La Tortue Rouge, ça aurait été d'une part très bon pour La Tortue Rouge, ça aurait été d'autre part
moins bon pour vous,
moins
peut-être.
Bon pour nous, ouais. Pour moi.
Ouais, c'était ça peut-être plus votre film au bout d'un moment.
Ça deviendrait un film de Miyazaki.
Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que vous alliez chercher là-bas, vous, Michael Dudok de Witt?
Je ne cherchais pas, c'est eux, c'est incroyable,
c'est eux qui vous ont appelé.
Oui, c'est eux qui m'ont appelé. Je n'aurais pas, même pas rêvé de frapper à leur porte en disant est-ce qu'on peut travailler ensemble. C'est carrément impensable. Mais ils l'ont fait, ils m'ont donc invité, est-ce qu'on peut faire un long métrage ensemble? Nous, on sera les producteurs, vous serez le réalisateur et vous ferez le film en Europe, notamment en France. Et j'ai très vite, dès le début, j'ai dit, naturellement j'ai dit oui, c'était incroyable, mais j'ai aussi très vite, dès le début, à Takahata en particulier, donnez-moi votre feedback. Je veux savoir votre opinion sur le scénario, sur les idées. Et c'était un peu surprenant pour eux, et Takahata m'a dit le lendemain, attends, il y a une chose que je veux bien comprendre avec vous, est-ce que vous voulez vraiment que je vous... que nous vous donnons notre opinion, quand vous voulez. Et je dis, oui, j'en ai besoin. D'abord, vous avez plus d'expérience que moi. Parce que j'ai une admiration sans limite pour vos films. Mais vous avez aussi une perspective japonaise. Ce ne sera pas un film japonais, mais vous avez une perspective qui a un respect pour la nature et un respect pour le silence qui est unique, que j'aimerais entendre ça.
Eh ben, on y vient justement à ce respect pour la nature. Ils sont venus chercher leurs influences en France et en Europe. Il était peut-être normal du coup que vous fassiez le voyage inverse et que vous alliez les écouter de votre côté pour votre film La Tortue Rouge. La rivière, vous l'avez évoqué, Xavier Kawatopor.
Aku, écoute-moi. Ce que je vais te dire, je m'en souviens pas vraiment moi-même, mais je sais que ma maman me l'a raconté. Quand j'étais toute petite, je suis tombée dans une rivière. Le temps a passé, ils l'ont remblayé, ils ont mis des immeubles dessus. Mais il y a une chose dont je me souviens. Ça vient de me revenir. Cette rivière, c'était là. La rivière Kohaku. Ton vrai nom, c'est Kohaku. Comme la rivière.
Je te remercie de m'avoir sauvée. Sans toi, mon vrai nom serait devenu un vieux souvenir enfoui au fond de moi.
Je t'ai vraiment sauvée ?
Je suis l'esprit de la rivière Kohaku.
L'esprit de la rivière, ça fait penser à un dieu.
Mes souvenirs me reviennent à présent. Comment aurais-je pu oublier le moment où tu es tombé au fond de moi? Tu te penchais pour repêcher ta chaussure.
Oui, et tu m'as emmené dans tes bras vers le gué pour que je puisse reprendre pied. Oh, quelle joie!
Lumineux, oui, alors film, là, plutôt lumineux, là où le film commence de manière, pardon, juste on l'évoquait, assez sombre. Et comme on n'a toujours pas évoqué le scénario de ce film, en gros, ce qu'il raconte, c'est quand même l'histoire de cette jeune héroïne qui va avec ses parents, qui est en voiture, et puis qui va donc faire ce passage dans un autre monde, arriver dans un parc d'attractions fantômes, des parents qui vont se jeter sur des plats, les plats d'un buffet, se goinfrer, se transformer en cochon. Et puis ça va être une fuite, une quête, mais d'abord une pérégrination au cœur d'un autre monde, dans cette cité habitée par d'étranges personnages, avec un bébé sumo, avec la figure de l'horrible sorcière Yubaba qu'on ne va pas tarder à entendre. Un film plus sombre, nous disait tout à l'heure Xavier Kawatopor, avec des instants aussi de réellement de magie. Là, on est dans une portée totalement onirique. Hein.
J'ai pensé à quelque chose en écoutant ce dernier passage qui est à peu près l'apothéose du film. C'est la dualité. Qui est très caractéristique de Miyazaki, c'est-à-dire que ce jeune homme qui était si serviable au début est en fait un esclave de la sœur jumelle, etc. Et c'est un voyou qui ne fait pas attention. C'est juste un exemple de cette dualité, de la contradiction de l'être humain, que l'être humain est paradoxal, ça c'est essentiel chez Miyazaki. L'autre chose que je voulais dire, c'est que je trouve que l'impact Miyazaki le montre, les gens sont soit Totoro, soit Chihiro. Je remarque beaucoup de critiques ou de
Et on a beaucoup hésité entre les deux films.
Oui.
Hein.
Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et moi, j'aime beaucoup Totoro, je l'adore absolument, mais c'est très clair, les deux pôles. Évidemment, il y a des rapports entre les deux films. Le Mei, là, elle devient Chihiro aussi. Il y a aussi une histoire de rivière, de perte de choses. Et évidemment, la gemellité est l'exemple par excellence, l'incarnation évidemment de la dualité. Hein. Et ce qui nous amène à ce personnage qui est extraordinairement intéressant de No Name, Kaonoshi, c'est ça?
C'est le sans-visage pour nous.
Oui, sans-visage. Oui. Mm-hmm. Et qui à peine, il ne sait même pas parler. Et qui devient, dès qu'il est purgé, comme vous dites, dès qu'il est nettoyé, qu'il a vomi ses entrailles, et même, c'est très drôle, il faut parler de l'humour du film aussi, quand il recrache les personnes qui sont absolument intactes, qu'il a avalées, parce qu'il est comme un zombie par définition, et comme lui, mastique tout le temps, mais ne peut pas digérer. Donc, il est ça aussi. Et qu'est-ce qu'il devient à la fin? Il devient comme un des personnages des trois parcs. Il est en train de filer le fil de la vie très joliment dans une chaumière. Alors, vraiment, oui, c'est baroque, si on veut, mais c'est un principe de Miyazaki que nous sommes tous des mélanges.
Dans ce voyage, Xavier Kawatopor, est-ce que chaque personnage a un rôle, à sa place dans le film, parce qu'elle va faire beaucoup de rencontres. Est-ce qu'ils vont tous l'aider à grandir, à avancer? Est-ce qu'ils apportent tous quelque chose à ce cheminement que fait la jeune héroïne?
Oui, évidemment, mais pas que. C'est-à-dire que le film de Miyazaki n'est pas un film totalement linéaire. Alors on peut le voir effectivement comme c'est un film qui sort dont on peut faire une lecture d'une certaine manière verticale, puisque tout s'ordonne en fonction de cet établissement de bain qui est à étage, avec effectivement un certain nombre d'épreuves et de passages d'un étage à un autre, en sachant qu'effectivement on a en bas le machiniste qui est ce personnage avec ses bras tentaculaires qui passe son temps à fournir la chaudière, et puis effectivement en haut le bureau où règne la sorcière. Et donc l'itinéraire de Chihiro est fait d'une ascension d'une certaine manière d'un niveau à l'autre, jusqu'à effectivement un moment où tout ne se joue pas dans cette ascension. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe beaucoup dans Chihiro, c'est justement ce thème de la rivière dont on parlait tout à l'heure, et ce thème à la fois qui est celui du miroir, mais que l'on retrouve dans tous les mythes, qui est le moment où, y compris dans le mythe arthurien, où il faut effectivement plonger au fond de l'eau, il faut se noyer d'une certaine manière pour avoir cette impulsion de remonter à la vie et de reprendre son souffle et d'être métamorphosé. Et ce qui me frappe dans le voyage de Chihiro, et dans toute l'œuvre de Miyazaki d'ailleurs, c'est cette capacité à être profondément japonais et aussi à agglomérer et à des citations, des mythes, des références qui sont finalement universelles et qui font que même si on ne connaît pas la culture japonaise, ces motifs nous parlent profondément.
France Culture, aujourd'hui avec nos trois invités, l'historien spécialiste du cinéma d'animation Xavier Kawatopor, le cinéaste réalisateur de La Tortue Rouge, Michael Dudok-Devitt, et notre spécialiste aussi du cinéma à Paris 13, auteur, autrice du Voyage de Chihiro, Esne O'Neill. Ils sont avec nous pour parler d'un film, d'un des 10 films qui, cet été, tout l'été, vous montre comment certains films, le cinéma, peut changer le monde, ou pour commencer nos regards aujourd'hui, Le Voyage de Chihiro, du japonais Hayao Miyazaki.
Ne crains rien, je suis avec toi, n'aie pas peur.
France Culture.
Non, laisse-moi, laisse-moi.
Ouvre la bouche et avale ça, vite.
Les films qui ont changé le monde.
Il faut que tu manges un produit de ce monde ou tu disparaîtras toi aussi.
Non.
Olivia Gesbert.
Alors effectivement, Chihiro va devoir traverser un certain nombre d'épreuves. Elle va essayer de retrouver ses parents. Pour s'en sortir, il va falloir avancer et parfois chuter pour mieux remonter. Il y a une autre question qui est importante dans le film, il y en a plein, mais il y a aussi que Chihiro n'est encore qu'une enfant, mais elle n'a pas le droit à la paresse avec Miyazaki. Quelle est la valeur du travail dans ce film? On y réentre par un extrait et je vous donne la parole juste après.
Excusez-moi, c'est vous le vieux Kamaji? Monsieur Kamaji, je viens vous voir de la part de Maître Aku pour que vous me donniez du travail.
Oh, ils s'y mettent tous en même temps. Allez, debout là-dedans, au boulot les gars! Je suis Kamaji, le vieil esclave, au four et au moulin pour chauffer l'eau des bains. Allez mes petits, plus vite que ça!
Alors, vous voulez bien me donner du travail?
Oh, je n'ai besoin de personne. Cette vieille chaufferie est pleine de boules de suie. Et pour aller au charbon, j'ai toute une armée à mon service. Allons, du balai.
Michael Dudok-Devitt, qu'est-ce qui lui fait subir à son héroïne, hein? Quand même des sacrés défis, elle doit traverser pour y arriver.
Il n'est pas méchant. Il est sévère et il exige l'extrême, mais il aide ultimement. Et naturellement, comme personnage dans le film, il est fascinant avec ses bras et avec sa théière de laquelle il boit. Ce que j'aimerais dire sur ce personnage et sur tous les autres personnages, c'est que c'est évident que Miyazaki a beaucoup d'imagination et c'est un de ses talents, mais ça ne suffit pas d'avoir beaucoup d'imagination. Il a une imagination qui nous touche plus profondément parce qu'il sait sélectionner les archétypes. Il sélectionne des symboles qui sont pas juste curieux, intéressants, divertissants, mais qui nous secouent profondément.
Comme quoi, par exemple?
Une des plus beaux moments, c'est naturellement le train qui passe à travers une sorte de surface qui est comme la mer. Ça, c'est une image qui me fait arrêter de respirer tellement c'est beau et spécial. Et c'est pas juste beau, c'est aussi c'est familier, c'est ça l'archétype. C'est des symboles qu'on reconnaît.
Bah, c'est familier et déroutant à la fois, souvent, avec lui. Hein.
Oui, oui, mais ça, c'est OK.
Ouais.
Oui.
Pourquoi c'est OK?
Quand c'est déroutant, c'est excitant. Je veux dire, son visage est déroutant et super intéressant. On aimerait voir tout un film sur lui, de nouveau.
Esnée O'Neill.
Oui, j'avais établi, mais ce n'est qu'une possibilité, l'idée de Faust quand il essaie de la séduire, et aussi Baudrillard quand il parle de du consumérisme, il parle de ça, la séduction, et la scène où il la domine complètement par son poids. Elle est agenouillée par terre, elle a dit « Non, je ne veux rien ». Alors, cette question qu'il lui pose « Qu'est-ce que tu veux ?» est une très grande question. C'est la question de base de la psychanalyse, par exemple. Et c'est ce qu'il faut trouver dans l'individu, c'est ce qu'il veut. Elle dit « Je ne veux rien ». Ça me rappelle mes étudiants qui me disaient « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et je leur disais « Je ne veux rien. Moi, je ne veux rien, c'est de vous. » C'est pour vous dire qu'il faut qu'elle comprenne que le trajet qui reste à accomplir dépend d'elle complètement. Cette indépendance est à ce moment-là acquise quand elle résiste à cette figure, et lui, il est transformé par sa propre évolution. Il devient doux, il suit, il y a la roue qui tourne chez Zeniba dans une chaumière anglaise, très tea party à la Carol et tout ça. Et il va rester là, il va apprendre aussi. Mais il y a dans le cosplay les gens en Amérique qui s'habillent comme des personnages de cinéma, c'est le numéro un. C'est, oui, oui, évidemment, c'est comme un fantôme, sauf que c'est noir, le... Non, je suis fascinée par ce personnage, absolument.
Il y a cette phrase de Miyazaki qui dit qu'effectivement dans ce film-là, ce n'est pas de la fiction, c'est le Japon d'aujourd'hui. Il a quand même lui aussi l'envie et l'impression de s'inspirer de ce qu'il voit, c'est-à-dire l'avidité, l'accélération du monde, la pollution, tous ces grands thèmes qu'on retrouve, hein, la gloutonnerie, le rapport à l'argent, tout est présent hein, dans ce film. C'est quand même un condensé aussi, hein, Xavier Kawatopor.
Oui, c'est un condensé. Et puis, pour moi, c'est aussi un film miroir de Miyazaki lui-même. Et en tout cas, on peut le voir. C'est un film dans lequel on peut projeter beaucoup de choses, y compris une représentation du studio Ghibli de Miyazaki lui-même avec une dualité dont vous parliez tout à l'heure. On a Miyazaki qui est Yubaba, d'un côté, qui est effectivement ce monstre d'autorité que personne n'ose contester. Et puis, qui est aussi Kamaji, c'est-à-dire celui qui fait tout seul, parce qu'il n'y a que lui qui est capable de tout faire et qui se tue au travail, parce que vous parliez tout à l'heure du travail qui est effectivement la valeur d'insertion essentielle dans ce film comme dans Kiki la petite sorcière, c'est-à-dire que ce qui permet effectivement à une adolescente de trouver sa place par le travail, de s'insérer dans la société, mais c'est aussi effectivement un grand thème de Miyazaki lui-même, c'est-à-dire son propre rapport sans fin au travail.
Vous avez parlé de Yubaba, c'est quand même pas possible qu'on termine cette discussion sans avoir entendu la sorcière du film. Et surtout si vous nous dites que c'est en partie le double de Miyazaki.
Tu es au cœur du grand palais des bains où 8 millions d'esprits viennent se reposer quand ils sont fatigués. Tes parents, tu as un sacré toupet, ma petite. Ils ont dévoré le dîner de mes invités et se sont empiffrés comme des porcs. Ils ont mérité leur sort. Et comme jamais tu ne reverras le monde d'autrefois. En quoi vais-je te changer, hein? En charbon ou en joli petit porcelet? Tu trembles, hein? Je me demande comment tu as pu arriver jusqu'ici. Tu as probablement rencontré en chemin un ami dévoué. Je serais ravie de le remercier. Sois mignonne, je t'en prie. Révèle-moi son nom, mon ange.
Madame, je veux que vous me donniez du travail.
Je t'ordonne de te taire.
Seulement quand on me donnera du travail.
Elle est bien cette enfant, hein, à vouloir travailler comme ça. Que nos enfants s'en inspirent. Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres, cette sorcière, chez Miyazaki?
Elle lui impose à un enfant ce qui est peut-être contre la loi, un contrat. Un contrat où son nom est changé. Savez-vous quel est le titre du dernier livre publié en France sur Miyazaki avec le voyage de Chihiro sur la couverture? C'est Hayao Miyazaki et le droit. Et c'est une collection d'essais sur les grands films de Miyazaki du point de vue des juristes.
Ah, le droit de l'environnement, le droit du travail,
incroyable.
Etc.
Incroyable, oui, oui. Alors, vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce contrat est complètement bidon, par exemple. Mais aussi, évidemment, il y a toute la question de l'enfant qui travaille. Dans ce livre, j'étais fascinée, mais ça vous montre encore une fois que des juristes viennent de publier un livre sur Miyazaki avec, sur la couverture, une photo de Chihiro.
La sorcière.
Elle, on la décrit comme la méchante sorcière. Elle est complexe. Elle a des moments, oui, elle a des moments où elle montre sa vulnérabilité. Et elle est polarisée avec sa sœur, qui est gentille, Zeniba, qui ressemble comme sa sœur jumelle et qui aide Chihiro, mais qui a aussi quelques petits traits de caractère de sa sœur. Et c'est là, comme vous avez dit, la dualité est sublime.
Voilà, on a interrogé.
Complètement manipulée par ce fils obèse dont on n'a pas parlé, qui est retiré du monde et qui se vautre sur des coussins. Je me suis posé la question, ce n'était pas une référence à cette jeunesse japonaise qui, très tôt, avant 20 ans, se retire de la société. Il y a un mot pour eux, c'est toute une sorte de caste de jeunes qui refusent de s'engager dans le monde. Et lui, jusqu'à ce que Chihiro arrive, est comme eux. Et grâce à elle, il s'en sortira. Et il va faire face à maman, qui est Yubaba.
Oui. C'est un gros, c'est un gros caprice, ce bébé, hein,
oui.
En soi.
Oui, oui. Il est assez hideux.
Un enfant gâté.
On a parlé de la création, on a parlé de la réception de ce film, Le Voyage de Chihiro. Contrairement au Château de Cagliostro, autre film de Miyazaki, ou à Kiki, la petite sorcière, Totoro, Mononoke, Chihiro sont vraiment trois films très japonais, en tout cas dans les décors, dans la localisation de l'histoire. C'est comme un retour chez soi, nous disait le dessinateur Moebius à propos de Miyazaki et de ce voyage de Chihiro.
Sur quelque chose qui m'a frappé dès le début, c'est le fait que M. Miyazaki se soit, disons, comment je pourrais dire, inspiré dans pratiquement tous ses films de fantastique de l'Europe. Et c'est une perception de l'Europe qu'on sent très lointaine, idéalisée et amoureuse. Par contre, j'ai trouvé que des films comme Totoro, Mononoke et Chihiro, d'un seul coup représentent une rentrée dans chez soi qui est très émouvante aussi.
世界に対する考えと技術というのは一体のものだと僕は思います。
Je pense que vision du monde et technique sont indivisibles. Concernant la technique, nous avons utilisé les méthodes apprises de la peinture européenne qui s'articulent autour de la lumière et de la dimension. Quand on a dû dessiner les bains du voyage de Chihiro, nous ne devions représenter que des objets traditionnels japonais. Et je ne savais pas si nous pourrions dessiner ces objets avec des techniques européennes. Mais mon équipe a montré une grande adaptation. Et ensemble, avec ces nouvelles techniques apprises en Europe, nos capacités inhérentes sont ressorties dans chaque scène. Certaines images ne ressemblaient à rien de ce que nous avions dessiné auparavant. D'habitude, les deux cultures contrastent fortement. Mais dans le voyage de Chihiro, chacune a trouvé sa vraie place et travaille en harmonie avec l'autre. C'était une expérience merveilleuse.
Voilà, après Moebius, Miyazaki lui-même qui s'exprimait à propos de ses inspirations, de son dessin aussi. Je trouve intéressant quand il dit, Xavier Kawatopor, que vision du monde et technique sont indivisibles, comprendre aussi indissociables. Et ça le caractérise vraiment hein, dans sa manière de faire du cinéma.
Oui, c'est très intéressant ce cheminement de Miyazaki. dont les sources, non pas premières, mais malgré tout importantes, cardinales, capitales, sont des sources occidentales. Effectivement, aussi bien dans le dessin animé, ses références au départ, c'est Disney, c'est Grimaud, c'est l'animation russe d'Atamanov notamment, mais aussi la littérature. Miyazaki est quelqu'un qui a une véritable vénération pour toute la littérature d'imagination, la littérature jeunesse, et beaucoup occidentale. Swift, Jules Verne, Lewis Carroll, etc. Et effectivement, comme le pointe bien Moebius, il y a progressivement une entrée, un retour au Japon, une entrée au Japon. Et moi, je ne peux qu'y voir le sillage de Takahata. C'est-à-dire que dans ce travail sur le réalisme, Takahata va opérer ce retour au Japon très vite, c'est-à-dire au début des années 80, après avoir nourri une forme d'approche documentaire de l'Occident dans Heidi en particulier. Et dès 81, Takahata, puisqu'il est dans cette recherche de réalisme et qu'il considère qu'il ne peut parler de façon précise que ce dont il connaît, il a une connaissance intime, il se dit qu'il ne qualifiait en tant que réalisateur pour ne parler que du Japon d'une certaine manière, parce qu'il connaît intimement l'homme japonais de l'intérieur, et pour lui il y a toujours une forme d'écueil dans la représentation de l'Occident, une forme d'écueil d'exotisme, de biais qui est celui de l'exotisme. Et effectivement, pour moi, de façon assez significative, Miyazaki commence à marcher sur ces pas-là à partir de Totoro, c'est-à-dire à partir du moment où Takahata a déjà ouvert cette voie-là et où les équipes qui sont aussi celles du studio Ghibli ont travaillé dans cette voie-là.
Michael Dudoc-David, vous ne nous avez pas dit, ce sera le mot de conclusion. Vous avez le choix entre soit l'image qui vous restera éternellement de ce film. Alors je sais que l'animation, c'est l'image en mouvement, mais là, si vous n'en gardez qu'une, laquelle ce serait ? Autre question, c'est tiroir, hein, vous pouvez choisir. Est-ce que c'est Chihiro que vous auriez gardé, vous, pour parler de Miyazaki aujourd'hui ? Ou vous avez une préférence nette pour un autre de ces films ?
Oui, bon, je suis un de ceux qui hésitent beaucoup entre Mononoke, Totoro et Chihiro, mais c'est Chihiro, effectivement, qui gagne des trois, si je dois choisir un. Il y a une image tout simple, au milieu du film, où Chihiro est assis sur le balcon avec son ami Lin, et la lumière, c'est la nuit, les deux mangent, elles parlent un peu, et Chihiro regarde vers la plaine devant elle, c'est la lumière de la lune. Et il y a une ambiance de paix, soudainement, on en a très besoin dans le film, et une ambiance de beauté une fois de plus, et d'ambiance, et de juste l'atmosphère de ce moment, où elle réfléchit un instant sur ce qui s'est passé, elle voit la mer devant elle, c'est un moment absolument féerique.
Merci beaucoup à tous les trois. La Tortue Rouge, où peut-on voir votre film ? Sur la Cinéthèque, j'en suis sûre, la plateforme indépendante.
Oui, je ne suis pas sûre.
Oui, on doit, mais on le trouve, je vous assure, Michael Dudoc-David. Et puis, il faut dire que Netflix a racheté tout le catalogue des films de Miyazaki. Donc, pour ceux qui y sont abonnés, ils sont visibles sur la plateforme, mais pas seulement. Vous pouvez trouver dans tous les bons vidéoclubs et ailleurs les films de Hayao Miyazaki. Merci à vous, Esne O'Neill. Votre livre, j'en rappelle le titre, Le Voyage de Chihiro, est paru chez Vendémiaire. Merci, Xavier Kawatopor.
Quand j'ai vu Princesse Mononoke, mais surtout Le Voyage de Chihiro, j'ai été très frappé par le fait que je ne voyais pas un producteur, aucun producteur dans le monde, accepter le scénario.
Et pourtant, Moebius, désolé, voilà comment aussi Le Voyage de Chihiro est devenu un des plus grands succès du cinéma mondial et une référence phare du cinéma d'animation. Merci à nos trois invités et un grand merci à l'équipe de la série Ciné de l'été. Cette collection d'ailleurs des 10 films qui ont changé le monde est à retrouver en podcast sur la Prili Radio France. Préparation, programmation, imagination, Sophie Catherine Gallet, effet sonore, en d'autres termes réalisation, Félicie Faugère, et à la technique, bien accompagnée, Jean Guilain-Meige.